Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'Entreprendre. Toulouse a été une des premières villes de France en 2014 à décrocher le label French Tech. Promouvoir les entreprises innovantes, accélérer leur développement, faire rayonner la ville au niveau national et au-delà, c'est le défi qui attend le nouveau directeur délégué de la French Tech Toulouse, Alexis Janicot, et notre invité. Bonjour Alexis Janicot.
Bonjour Doris.
Et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'Entreprendre. Nous sommes ravis de vous recevoir.
Avec
Alors,
plaisir.
Vous avez le goût du challenge, Alexis ?
Tout à fait. C'est un sacré challenge de prendre la direction de la French Tech à Toulouse.
Ouais.
C'est une ville aux atouts considérables. Il y a énormément de choses à faire. Donc oui, impatient, même les actions ont déjà commencé, mais impatient d'en mettre en place
de nouvelles actions.
Nouveau
challenge parce qu'en fait, c'est une nouvelle équipe qui est arrivée aux commandes de la French Tech ces dernières semaines.
Tout à fait. En fait, en 2019 a été une année de changement pour la French Tech, puisque initialement, la French Tech était portée par les collectivités, en particulier par Toulouse Métropole. Et l'année dernière, un peu sous l'impulsion de l'État et avec le consentement, bien sûr, de Toulouse Métropole, c'est une nouvelle association qui s'est créée, une association qui est portée par 9 entrepreneurs. Cette association est présidée par Sandrine Julien-Rouquier, qui est une présidente de... Donc ça, c'est déjà intéressant en soi, et qui est présidente de l'UDI Label, qui est une entreprise toulousaine.
Ouais, que nous avions reçu d'ailleurs dans Le Goût d'Entreprendre, qui fabrique des étiquettes, mais pas que ça.
Qui fabrique des étiquettes et tout un tas de stickers d'impressions personnalisées pour permettre par exemple à des enfants de personnaliser leurs affaires quand ils vont à l'école.
Tout à fait, une entreprise qui fonctionne bien sur Toulouse. Donc c'est elle aujourd'hui la présidente et vous êtes le directeur délégué. Alors pour qu'on comprenne bien, la French Tech, parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est quoi ? C'est une association ?
La French Tech au niveau national, c'est un service de l'État,
donc
ça dépend vraiment du ministère de l'Économie, c'est un service public qui a été créé initialement par Axel Lemaire et qui a pour objectif vraiment de coordonner toutes les actions de l'État en faveur des startups et des entreprises innovantes. Et en local, c'est constitué, donc les French Tech, les différentes capitales French Tech sont constituées en associations.
D'accord.
Et donc avec une logique vraiment de partenariat public-privé, avec un soutien de l'État, un soutien des collectivités et soutien des entreprises et des différents acteurs qui contribuent au développement des startups.
Voilà, donc j'allais vous demander qui vous finance. Alors en fait, c'est tous ces acteurs mélangés qui vous apportent un soutien financier.
Alors qui nous apportent un soutien financier d'une part et qui d'autre part permettent vraiment de fluidifier toutes les relations. L'idée étant pour nous de pouvoir fédérer un ensemble d'écosystèmes, tout l'écosystème, de sorte de manière à ce que lorsqu'une startup a un problème, un besoin ou souhaite débloquer une situation, on puisse très vite connecter avec les bonnes personnes aux bons endroits.
D'accord. Alors, quand on parle de start-up aujourd'hui, on va parler de Toulouse et de l'Occitanie aussi, puisqu'il y a deux antennes. Il y a une antenne sur Toulouse et il y a une antenne sur Montpellier. C'est quoi une start-up ? Alors, concrètement, aujourd'hui, la définition de la start-up, c'est le petit entrepreneur, entre guillemets, petit, c'est pas péjoratif, attention, qui se lance tout seul chez lui ou c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas réduire la start-up au petit entrepreneur dans son garage, l'image que vous avez, qui est créatif. D'une certaine manière, Facebook, c'est toujours une start-up. C'est toujours... une start-up, c'est quoi ? C'est une entreprise qui s'appuie sur une innovation technologique et qui a un modèle économique qui est ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qui peut viser des très forts taux de croissance, 30-50%, parfois 100%, et même en faisant déjà des millions, voire des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc une start-up, ce n'est pas forcément petit. On en a par exemple sur le territoire, on a des start-up, pour reprendre votre terme. qui ont 300-400 salariés. Ce sont déjà des PME. La start-up la plus grande, d'ailleurs, quand on parle de start-up à ce niveau-là, on parle plutôt de scale-up. Sigfox par exemple, le plus grand acteur sur le territoire, et puis derrière on en a plusieurs qui viennent d'ailleurs d'être promus au concours national qui s'appelle le French Tech 120, donc qui référence les 120 startups les plus performantes au sens de la croissance ou au sens des levées de fonds qu'elles ont pu réaliser. Mmh. Sur le territoire, on en a deux plus une. Deux, je vais l'expliquer. Oui. Les deux, ce sont EasyMile, qui est une startup qui produit des voitures électriques autonomes.
Navette autonome, ouais.
Navette autonome, tout à fait. On a ILEC, qui est également un producteur, ou plutôt une plateforme de mise en relation entre des producteurs d'énergie renouvelable et des consommateurs comme nous. Et puis, on a la chance d'avoir une startup réunionnaise, Réuniwatt, qui a installé son centre de R&D, son centre d'innovation sur Toulouse.
Ouais,
voilà,
ouais.
D'où le plus un. Et donc on est très fiers de que dans le concours national, ces différentes startups aient pu être nommées.
Ouais.
Et c'est une vraie chance pour l'ensemble de l'écosystème d'avoir des startups dont la performance est reconnue au niveau.
Qui sont devenues grandes.
Voilà, ouais, tout à fait.
Ça,
ouais.
Tout à fait. Alors donc concrètement, je suis chef d'entreprise, je crée mon entreprise, on a une petite structure, on va vous voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous?
Alors, si vous êtes en création, nous, en fait, on va surtout pouvoir vous orienter,
ouais.
Vous permettre d'identifier quels sont les bons acteurs dans l'écosystème. Vous cherchez, je sais pas, un hébergement, des locaux. Vous cherchez des modalités pour financer votre innovation. Vous cherchez un accompagnement parce que, par exemple, vous avez un profil plutôt technique et pas vraiment business,
ouais,
ou à l'inverse,
ouais.
Et donc vous allez chercher des gens pour vous accompagner. Vous allez peut-être chercher un nouvel associé pour pas partir tout seul dans cette aventure d'entreprendre. Vous allez vous poser des questions sur je sais pas, sur la propriété intellectuelle de votre
ouais,
idée,
ouais.
Pour pas vous la faire piquer. Voilà, donc les questions sont très larges, et nous derrière on a un historique de non seulement de 6 ans de French Tech, en plus l'expertise, la connaissance des entrepreneurs qui dirigent l'association. Donc on s'appuie là-dessus,
ouais.
pour apporter vraiment les informations. On est un peu une sorte de guichet d'orientation.
D'accord, un réseau.
On a un réseau, ouais, et donc on fédère. Et en fait, en complément, on a un certain nombre de groupes de travail, de commissions qui rassemblent des investisseurs, des structures d'accompagnement, des grands groupes qui veulent travailler avec des startups, etc. Et donc ça permet aussi de fluidifier au maximum. Et je trouve qu'on le fait plutôt bien, en fait, à Toulouse.
D'accord. Alors ça veut dire quoi? Vous nous accompagnez, mais tout ça, ça a un coût pour le chef d'entreprise?
Alors, la French Tech, c'est une association.
Ouais.
Donc, pour l'entreprise, oui, il faut adhérer à l'association, même si le premier contact, on le donne volontiers, gratuitement. C'est possible de prendre rendez-vous juste sur le site de la French Tech et la French Tech Toulouse. On peut prendre rendez-vous et donc on prend un premier temps de prise de contact. Mais après, si l'entrepreneur veut participer à la vie de l'association, participer à des différents groupes d'entraide entre entrepreneurs, et ensuite plus globalement mobiliser vraiment des outils et des programmes de la French Tech, et bien là, pour le coup, il faut effectivement adhérer.
Et ça, donc voilà, ça c'est un coût pour le chef d'entreprise.
C'est un coût, alors
c'est important.
Le coût, il est plutôt symbolique, hein. C'est de 50 à 200 euros selon la taille de l'entreprise.
Pour l'année.
Pour l'année.
D'accord.
Donc voilà, c'est.
Mais est-ce que vous sélectionnez les entreprises? Est-ce que vous allez plus vers certaines entreprises hyper innovantes, ou alors, j'allais dire, c'est ouvert à tout le monde?
Alors c'est ouvert à tout le monde qui veut créer une start-up ou qui l'a déjà créée,
ouais.
Qui la dirige. Donc, les critères, ils sont relativement simples. C'est est-ce que dans votre projet ou dans votre entreprise, est-ce qu'il y a une innovation technologique?
D'accord.
Oui, non. Et deuxièmement, est-ce que vous avez pour ambition de créer une entreprise qui puisse se développer au niveau européen, au niveau international?
D'accord.
Oui, non. Si, en fait, on répond non à l'une de ces deux questions, a priori, le chef d'entreprise ou le porteur de projet n'est pas dans une dynamique de créer une start-up.
Oui, d'accord, tout à fait.
Voilà.
C'est différent d'un incubateur, on n'est pas sur le même modèle.
Alors, à Toulouse, mais c'est différent dans d'autres villes, à Toulouse, la French Tech ne porte pas en elle-même d'incubateurs ou de programmes d'accompagnement.
Ce qui est le cas dans d'autres villes, effectivement.
Ce qui est le cas dans d'autres villes. Mais parce que, pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir un écosystème qui est très riche. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement sur Toulouse. Et donc, nous, notre rôle, c'est plutôt d'orienter vers la bonne structure d'accompagnement pour qu'il n'y ait à la fois pas de déception du chef d'entreprise et d'autre part, faire gagner du temps aux structures d'accompagnement pour pas qu'elles reçoivent des gens qui ne qui sont pas là au bon moment, au bon endroit.
D'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment pour gagner en fluidité, en efficacité sur la ville et sur la région.
Vous avez donc une vision d'ensemble du monde, des startups, de l'écosystème sur Toulouse. Hein, vous le disiez, en termes d'accompagnement, c'est très riche. Mais en termes d'innovation et en termes d'entreprise, on en est où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, sur Toulouse, on a à la fois des pôles de compétences qui sont qui se développent très fortement dans l'intelligence artificielle. Uh-huh. Par exemple, il y a le pôle Aniti qui accueille des chercheurs internationaux en intelligence artificielle. On a une journée qui est prévue le 21 février sur le Deep Tech Tour, qui est en fait une journée qui est organisée par BPI France et qui vise à rassembler, à rapprocher les entrepreneurs des laboratoires de recherche.
D'accord.
Voilà, donc parce qu'on a un terreau de recherche. Enfin voilà, Toulouse a un ADN scientifique qui est hyper développé. Et c'est pas toujours facile pour un entrepreneur d'identifier qu'une brique technologique a déjà été développée par un chercheur. Et donc toute la problématique, c'est ce qu'on appelle la valorisation de la recherche, c'est de transférer des briques qui ont pu être développées vers une logique, comme on appelle, du laboratoire vers le marché, et donc de connecter des chercheurs avec des entrepreneurs.
D'accord.
Donc c'est l'objet de cette journée-là du 21 février, le Deep Tech Tour. Et voilà.
D'accord. On va en reparler dans un instant parce que c'est vrai aussi qu'il est important à votre image de vouloir sortir aussi du tout aéronautique sur Toulouse. Hein, on en reparle dans un petit instant. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
On parle d'entreprise, on parle de technologie, on parle de label, French Tech, avec Alexis Janicot, qui est le directeur délégué de la French Tech à Toulouse. Et on est avec vous également. Bonjour Denis Avril.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos consultants pour le goût d'entreprendre. Technologie, nouvelle technologie, entreprise, en fait, des mots qui vont très bien ensemble.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de questions. sur ce point-là. Vous avez dit une start-up, c'est une entreprise qui démarre sur une innovation technologique. Alors, je comprends que vous, French Tech, vous vous adressiez à ça, mais vous ne croyez pas qu'il peut y avoir des innovations autres que technologiques ?
Alors, si, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais le postulat de la French Tech, c'est de dire que le levier technologique peut être très puissant pour permettre au développement vraiment à très grande échelle d'une entreprise. Mais effectivement, il y a d'autres innovations de services, les innovations d'usage. Mais chacun son domaine et chacun sa
spécialité.
D'accord,
très bien. Donc, parce que c'est votre domaine que vous dites.
C'est mon domaine, tout à fait.
Une autre question que j'ai, c'est finalement, parmi tous ceux qui interviennent dans ce domaine, c'est-à-dire sur le fait de faire décoller des startups, de les aider, etc., et dont on a besoin, évidemment, il y a une foultitude d'intervenants que vous avez d'ailleurs à peu près tous cités, hein, entre les incubateurs, les pépinières, la BPI, les business angels, la région, l'IRDI, bon, et j'en passe, et les pôles de compétences, j'en passe, et des meilleurs. Et finalement, est-ce que rajouter des couches comme ça, c'est pas au contraire amener de la confusion, même si chaque acteur finalement dit « vous inquiétez pas, moi je fais le lien avec les autres ». Je sais pas, quand on démarre une start-up, on a l'impression qu'on ne sait pas par où commencer.
On est noyé, c'est ça en fait.
C'est tout l'enjeu en fait de ce guichet d'orientation, c'est de pouvoir permettre à l'entrepreneur de décrypter l'écosystème, de savoir ce qui peut être activable pour lui, mobilisable, et de voir ça comme une chance plutôt que de voir ça comme un risque et comme et d'avoir peur en fait d'avoir tous ces acteurs là. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a il y a parfois une overdose d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'entrepreneur oublie que son objectif numéro un, c'est d'abord de trouver des clients et d'avoir quelque chose d'intéressant à leur proposer et qu'ils l'achètent. Et l'enjeu n'est pas pour l'entrepreneur de courir après les trophées, après les prix, après les structures d'accompagnement, etc.
Après l'argent.
Un petit peu quand même, j'imagine. Mais voilà, l'objectif numéro un quand même de l'entrepreneur, enfin la personne qui doit aimer au quotidien, c'est pas son accompagnateur, ouais. c'est d'abord son client.
Ouais, je suis entièrement d'accord.
Voilà, donc ça peut être le risque parfois de ce trop-plein d'acteurs. Mais en même temps, encore une fois, c'est une vraie chance et on le voit qu'on a régulièrement, on est en contact avec des entrepreneurs qui viennent d'autres régions de France, voire parfois qui viennent de l'étranger, notamment de notre belle région méditerranéenne, et qui s'interrogent pour venir s'installer sur Toulouse. Et là, c'est toujours un plaisir de leur faire visiter l'écosystème, de leur montrer tout ce qui existe et ils sont souvent très intéressés par venir s'installer ici.
Donnez une autre question.
Oui, et votre lien avec les business angels, quand même, très souvent, ils veulent un peu d'argent quand même. Des startups pour démarrer, pour se développer, il faut de l'argent. Donc, quel est votre lien avec les business angels?
Alors, on les aime beaucoup. Déjà, enfin voilà, comme l'ensemble des investisseurs qui participent au financement des startups. Il faut juste expliquer pourquoi c'est important en fait cette phase de financement. Souvent, une startup développe une innovation. Pour ça, bien sûr, ça nécessite du temps. Souvent, il faut recruter des ingénieurs pour développer cette innovation. Donc, forcément, quand en plus on part de rien ou en tout cas de feuille blanche avec un 0 euro de chiffre d'affaires au départ, voilà, forcément, il faut obtenir ces financements-là. Et puis, d'autre part, on a un enjeu de rapidité. Il faut voir que les startups de Toulouse ne sont pas en concurrence avec les startups de Montpellier, de Bordeaux, de Paris. Si, d'une certaine manière, mais on est d'abord en concurrence avec les entreprises qui se développent en Chine, aux États-Unis et qui, reçoivent énormément d'investissements et ont une capacité d'accélération qui est juste prodigieuse. Et donc, l'enjeu, il est là, en fait. Il est de faire en sorte que en France et en particulier à Toulouse, on arrive à trouver des leaders technologiques qui arrivent sur les marchés avant des startups chinoises, américaines et autres. Donc, il est là l'enjeu en fait du financement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on aime beaucoup les investisseurs parce qu'au-delà du développement juste économique des startups, c'est aussi un sujet de souveraineté, un sujet de place de Toulouse, de la France dans le monde. Très concrètement, sur les investisseurs, en fait, on va publier bientôt un observatoire des startups avec un indice qui classera les différents investisseurs de la région. Parce qu'effectivement, vous en avez cité certains, mais le sujet, c'est quelle est la réalité de l'investissement aujourd'hui dans les startups. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de communication aussi par les investisseurs eux-mêmes. Voilà, on va juste partir des données factuelles, réelles, du financement des startups pour voir effectivement quels sont les acteurs qui financent réellement les startups.
Oui, ça pose un problème d'ailleurs un peu philosophique, je trouve, notamment à la France par rapport, vous avez cité la Chine, les États-Unis, on pourrait citer la Grande-Bretagne qui a une approche aussi très très différente. Mais finalement, on a une approche, j'ai l'impression, très, très puissance publique en France. Alors, vous êtes un exemple où on associe la puissance publique à une structure qui amène des gens qui ont créé des startups et qui sont privés et qui amènent une vraie connaissance du sujet. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres acteurs. Il y en a beaucoup, des publics, hein, BPI, les régions, etc. Enfin, bon, on en a déjà cité. Alors que dans d'autres pays, ça se passe un peu différemment, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Aux États-Unis, la seule manière, enfin, la bonne façon de faire du business, c'est d'aller au CES, et puis là, on se développe avec les contacts. Et puis, il y a des capitaux privés qui sont prêts à investir et tout, ce qui nous manque énormément en France. Donc, comment vous voyez ce mélange et un peu cet équilibre qu'il doit y avoir? Est-ce qu'il faut vraiment que la puissance publique intervienne de manière importante, ou est-ce qu'il faut au contraire simplement favoriser j'allais dire les puissances privées par rapport à la puissance publique, mais c'est plus une puissance, c'est les acteurs privés, quoi.
Oui, vous avez raison, il y a une spécificité française et des équivalents à la French Tech, on n'en connaît pas beaucoup, dans le monde, pour ainsi dire, j'en connais pas en tout cas. Donc je suis preneur de savoir si d'autres États ont mis autant d'énergie pour développer et soutenir la création et l'émergence de leaders technologiques. Le sujet, effectivement, comme vous le dites, il y a à la fois, et c'est là où c'est l'intérêt de la French Tech, il y a à la fois une dimension politique, publique, et une dimension hyper entrepreneuriale. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont menées par la French Tech Toulouse sont validées par des entrepreneurs, et d'une certaine manière, ce sont eux qui décident si les actions sont utiles ou pas, enfin, analysent si les actions sont utiles ou pas aux entrepreneurs, et s'il faut les mener. Bien sûr, on va travailler avec tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Moi, je regarde pas les histoires de chapelle et de couleur public-privé. Là où, en fait, vous avez... Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde numérique. Et dès qu'on utilise un téléphone, dès qu'on utilise un ordinateur, en fait, on crée de la donnée. Et cette donnée-là, aujourd'hui, il faut se poser la question d'où elle va et à qui elle appartient. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à la fois de souveraineté au niveau des États, et c'est un sujet de protection individuelle, protection personnelle. Quand je fais une recherche sur Google, aujourd'hui, j'enrichis des acteurs américains. Et par contre, si je vais sur Quant, par exemple, qui est un moteur de recherche français, eh bien, d'une part, ma protection personnelle, elle est respectée, et d'autre part, on contribue à développer un acteur économique français.
Alexis, vous parlez également de Tech for Good. On en parlait dans la première partie de cette émission. Alors, ça veut dire quoi, Tech for Good? C'est-à-dire remettre, entre guillemets, l'humain au cœur des startups. A-t-il vraiment disparu ou...
Alors, l'humain a toujours été au cœur des startups. Il ne faut pas...
On se rassure.
Il ne faut pas trop caricaturer le monde des startups. Ce qui est... la Tech for Good, pour répondre à votre question, ce sont des acteurs qui portent des innovations technologiques qui visent à répondre à des enjeux de société, que ce soit des besoins sociaux ou des problèmes environnementaux. Donc ce sont des startups qui, de manière très précise, ont une solution qui répond à un des objectifs de développement durable qui a été défini par les Nations Unies. Donc ça relève à la fois de l'accès à l'électricité pour tous, à l'éducation pour tous, à des systèmes de citoyenneté, des systèmes démocratiques transparents qui portent sur l'autonomie des personnes, le respect de la dignité, notamment des plus fragiles.
Donc, on peut parler par exemple de la silver economy.
Donc la silver economy, par exemple, même sur Toulouse, on a des grands acteurs dans ce domaine. On a Télégraphique, par exemple, qui est une solution pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles et de pouvoir alerter des services, par exemple, de pompiers en cas de problème à domicile. On a des solutions pour les personnes malvoyantes, etc. Enfin,
C'est
Tech for Good. On a un nombre important en fait de startups dans ce domaine-là, et je pense que c'est une des caractéristiques de Toulouse de pouvoir développer ces différents champs d'activité.
Denis, toute dernière question.
Oui, une question qui va être personnelle d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce que vous avez fait avant et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Alors, moi, j'ai eu un parcours en plusieurs temps. J'ai été entrepreneur, j'ai travaillé à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé. J'ai développé un accélérateur de start-up. Donc, j'ai pu voir un peu le champ de l'entrepreneuriat et l'innovation avec différents points de vue, on va dire. Et donc, moi, ce qui m'a mené ici, c'est déjà le... honnêtement, la qualité des relations avec les entrepreneurs qui aujourd'hui portent la French Tech à Toulouse, je trouve que c'est vraiment une équipe incroyable. Et au jour le jour, là, depuis quelques semaines où j'ai commencé ce poste, je rencontre d'autres entrepreneurs. Il y a une énergie positive, une volonté d'entraide qui est très forte. On est vraiment dans des logiques de coopération. Et moi, c'est ce qui m'attire, c'est de travailler à la fois avec des entrepreneurs, parce que je pense que les solutions, il y a un certain y a suffisamment de problèmes dans le monde pour qu'on essaye de s'y atteler pour trouver des solutions. Et je pense que l'entrepreneuriat et le levier technologique et la technologie sont des leviers importants pour développer ça. Et d'autre part, y a cet environnement-là qui est magnifique à Toulouse.
Merci à tous les deux, merci Alexis Génico. Alors si on veut vous joindre, c'est facile, sur votre site internet
lafrenchtechtoulouse.com. Vous avez toutes les informations et si vous ne les avez pas, vous prenez rendez-vous, c'est possible en deux clics.
Merci à vous, merci Denis Avril. Continuez à nous écrire, envoyez-nous vos questions, entreprendre@radioprésence.com.